un mois très exactement aujourd'hui qu'Arwan est porté disparu. Ce garçon de 18 ans s'est comme volatilisé après s'être rendu avec des amis à la boîte de nuit de la Morinière à Montcouton-sur-Sèvre. À 2h50, son téléphone cesse d'émettre. 10 minutes plus tard, des images le montrent sur le parking de la boîte de nuit et depuis plus rien. Une information judiciaire a été ouverte. Toutes les hypothèses sont évidemment envisagées. Un rassemblement est organisé aujourd'hui par ses proches pour continuer d'alerter. La belle-mère d'Erwan sera notre invitée sur ce plateau dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette mystérieuse disparition avec Anne-Solène Tavernier.
C'est un endroit prisé des jeunes le samedi soir. Ce 10 février, un rappeur connu se produit dans cette discothèque. Il y a beaucoup de monde pour faire la fête. Parmi eux, Erwan, que ses amis perdent de vue.
On ne peut pas rester tous les quatre collés, attachés, c'est pas possible. Mais avec le monde qu'il y avait, Erwan, il n'est pas grand, il est maigre, c'est vraiment pas un gabarit qu'on peut voir partout, quoi. Puis il est habillé comme tout le monde, donc forcément, c'était difficile de le retrouver. Donc ça ne nous a pas trop interpellés à ce moment-là. C'était plus vers 4h du matin qu'on s'est interpellé. Du coup, on a demandé au videur, on leur a montré une photo, ils n'ont pas vu.
Après une bêtise sans gravité, Erwan, fortement alcoolisé, est mis à la porte, raccompagné par un vigile sur le parking de l'établissement. Il est 2h30 du matin, l'étudiant part seul et à pied. Quelques minutes plus tard, son portable cesse d'émettre. Depuis, les gendarmes ont multiplié les recherches. Des plongeurs ont été déployés pour sonder les étangs à proximité, en vain. Qu'est-il arrivé à Erwan dans cette nuit fatidique? Pour sa famille, ses sœurs, l'attente et le manque d'informations sont insoutenables.
On l'aime très fort et si jamais... Il a décidé de partir quelque part, au moins qu'il nous le dise, ou si jamais quelqu'un l'a pris avec lui, parce qu'on ne sait pas en fait. J'ai pas les mots.
Tu nous manques, Erwan, vraiment.
Une information judiciaire pour disparition inquiétante est ouverte. Les enquêteurs n'excluent aucune piste.
Et avec nous sur le plateau d'affaires suivantes, Karine, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la belle-mère d'Erwan. C'est difficile d'être là, de parler, merci d'autant plus. Et c'est important de vous entendre pour qu'on n'oublie pas Erwan, que les recherches se poursuivent. Évidemment, on va vous entendre dans un instant à vos côtés, Maître Dylan Slama. Bonjour, merci
bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille d'Erwan. D'abord, à la maman que vous êtes, parlez-nous d'Erwan. C'est important qu'on parle de lui. Comment il est, Erwan?
Erwan, c'est un jeune... Je dirais, c'est un jeune, comme il en existe des millions en France, c'est un jeune gentil, posé, calme, réfléchi. C'est pas un tout fou. C'est un jeune qui est bien dans ses baskets et qui aime la vie et qui aime ses potes, ses copains, sa formation.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il est en BTS Banque à Poitiers, formation qu'il aime vraiment beaucoup. Il avait pas mal de projets, il était...
C'était un garçon heureux?
Oui.
Pas de raison qu'il fugue?
Non.
Vous non. L'êtes posé, j'imagine, mille fois cette question.
Mille fois, et c'est vraiment... S'il y a vraiment une piste qu'on a écartée rapidement, c'est celle-ci.
Pourquoi?
Parce que ça colle pas avec sa personnalité. Il est bien à la maison, il n'y a pas de conflit, que ce soit avec nous, avec ses amis, il a aucune raison de quitter la maison de cette manière-là. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Alors je dis pas qu'il y en a toujours, mais non. Et même au niveau des forces de l'ordre, ils ont écarté cette piste aussi très rapidement.
Karine, vous dites c'est un jeune comme des millions de jeunes, c'est pas un tout fou. Il est en BTS et à un moment vous passez à l'imparfait. Vous dites qu'il avait pas mal de projets.
C'est horrible. Oui, il a des projets de vie, il a des projets, mais comme on a des projets à 18 ans où on a envie de croquer la vie. Il a envie de d'évoluer professionnellement, c'est un jeune qui est malin, qui est il avait plein d'envie de par sa formation, oui, de par ce BTS.
On va parler de ce mois écoulé et revenir à cette question avant, parce que vous parliez de ses amis et de ses proches, ils étaient nombreux, ils sont nombreux. On va retrouver Boris Karlamov parce qu'un rassemblement a été organisé aujourd'hui pour mobiliser. Boris, il y a de nombreux amis d'Erwan qui sont là, il y a ses proches qui sont là et qui s'accrochent à l'idée que des gens peuvent parler, qu'il peut se passer des choses.
Oui, c'est l'un des objectifs de ce rassemblement qui est toujours en cours juste derrière moi dans cette salle des fêtes de Sorée. Sorée, pour vous expliquer, c'est dans ce village des Deux-Sèvres, et bien qu'est domicilée Karine ainsi que le reste de la famille d'Erwan. Un moment convivial, un moment positif. Voilà ce que nous disait son demi-frère Mathias hier après-midi. Un moment qui rassemble pas loin de 80 personnes depuis ce matin. Il y a des membres de sa famille, il y a ses copains, ses camarades du club de football, mais également des anonymes qui sont venus là pour adresser des messages de soutien. Alors à l'intérieur de cette salle des fêtes, on échange, on parle forcément d'Erwan, il y a des collations qui ont été mises en place, il y a des petits papiers qui ont été installés afin d'inscrire des mots de soutien à la famille. Un moment qui se veut chaleureux et surtout qui fait en sorte qu'on n'oublie pas Erwan. Alors il y a cet objectif aussi, c'est un peu raviver les esprits, raviver les mémoires. Et si eh bien, une personne qui se trouve à l'intérieur pense à un élément, pense à un souvenir de cette soirée-là, la famille encourage forcément ces personnes à témoigner le plus rapidement possible auprès de la gendarmerie, parce que voilà, cela fait un mois, cela fera un mois la nuit prochaine que ce jeune homme de 18 ans, plein de vie, comme vient de le décrire Karine, eh bien, a disparu dans ce département des Deux-Sèvres et toutes les hypothèses sont encore étudiées par les enquêteurs. Ce sont pas loin de 5 enquêteurs qui travaillent nuit et jour dans cette affaire, Philippe.
Merci Boris, on va revenir vers vous dans un instant, on va évoquer l'enquête avec vous aussi bien sûr, Maître. Un mois c'est tellement long quand c'est son fils qui a disparu. Comment vous faites? Comment vous tenez? Qu'est-ce que vous vous dites tous les jours?
Alors je vous cache pas que ça devient difficile parce que les premiers jours on est dans le faire, on est dans l'action, on est sur le terrain. Il y a du monde, on est très entouré, les gendarmes sont très présents. On a fait beaucoup de choses, il y a eu énormément de moyens qui ont été mis en œuvre. Donc on était dans l'action. Aujourd'hui, c'est très différent. Les gendarmes travaillent toujours, bien évidemment. Mais nous, on va dire que on n'a qu'à attendre. On ne peut pas, on n'a pas d'informations du fait de l'enquête. Et sur le terrain, on a épuisé toutes nos ressources. Donc, hormis aller vérifier une hypothétique piste éventuellement qu'on aurait peut-être pas assez creusée, ça nous arrive de temps en temps. Mais globalement, on est dans l'attente d'une information, dans l'attente d'un témoignage ou d'un élément majeur qui puisse nous orienter et puis nous rassurer.
C'est le temps de l'enquête, effectivement. Il y a des enquêtes, on en parle souvent avec Dominique, qui sont des fois malmenées ou qui commencent mal ou qui démarrent mal. Là, on a le sentiment, Maître, qu'il y a eu une mobilisation importante, très rapide, qu'il y a eu des battues, qu'on a sondé les forêts, les lieux autour de cette boîte de nuit. Est-ce que l'enquête à ce stade, elle est bien conduite ?
C'est le sentiment qu'on a. On a été reçu par le magistrat instructeur, par le procureur de la République. Si vous voulez, le travail est fait, le travail est bien fait. Nécessairement, il y a une immense frustration de notre côté. Elle est double, bien sûr. C'est que le travail peut être exceptionnel, diligent et rapide. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat concret. Vous voyez, encore une fois, ça remet pas en question le travail qui est fait. Bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas de résultat concret. Et la deuxième frustration qu'on a, c'est que l'enquête, elle a aussi un caractère secret. Ça veut dire qu'on a beau être parti ici, on a beau être la mère, le père, les proches d'Erwan, et encore une fois avoir un accès au magistrat instructeur qui est disponible, qui est à notre écoute, c'est pas ça que je remets en question, mais il y a un caractère secret de cette information judiciaire et de cette enquête, et encore une fois ce caractère secret, je le précise, c'est pour préserver l'enquête. Si tout venait à être divulgué, cela pourrait menacer les investigations, leur pérennité et leur sécurité. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce
à
que,
ce
oui,
stade, sur cette enquête, quand vous dites qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a, enfin, en tout cas, rien qu'on ne sache.
Voilà.
Rien qu'on ne sache. Et on espère que les enquêteurs ont des éléments qui ne peuvent pas communiquer pour le secret. Mais nous, pour l'instant, et vous, vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'il s'est comme volatilisé sur le parking de cette boîte de nuit.
Exactement. C'est pour ça que de notre point de vue, et plus particulièrement du point de vue de la famille d'Erwan, la frustration est immense. Et on espère, et on vous remercie de votre invitation, que justement, ce type d'alerte ou d'émission peut-être, effectivement, susciter chez quelqu'un qui regarderait l'émission, ah oui, je me rappelle d'un détail, etc. Parce qu'on se sent aujourd'hui très démunis. Et comme le disait Karine il y a un instant, au début, il y a beaucoup d'actions, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'inaction peut si vous voulez, peut être vertigineuse, parce qu'on est dans une espèce d'attente, de sas d'attente, et dans une espèce d'impuissance qui est très très difficile à vivre. Entre d'un côté une enquête sur laquelle non seulement on n'a aucun moyen d'action, mais qui en plus est secrète, et de l'autre côté, j'ai envie de dire, une enquête privée ou une réflexion privée du côté de la famille, qui patine un peu, parce qu'au bout d'un mois, on a beau se poser 1000 fois les mêmes questions, on n'a pas de nouvelles réponses à apporter.
On le disait tout à l'heure, parce qu'on en a parlé ce matin, il y a des enquêteurs travaillent sur plusieurs groupes. La famille fait partie des groupes sur lesquels travaillent les enquêteurs. Vous êtes une grande belle famille recomposée. Je crois qu'il y a 8 enfants, c'est ça ? 9. 9 enfants, un papa, une belle maman, et une maman et un beau papa. Hein. À chaque fois, les gendarmes sont venus chez vous, ont perquisitionné, vous ont posé des questions ?
Alors, perquisitionné, non, ils sont venus vérifier.
Je dis bien perquisitionné, parce que...
Non.
Bon, ça fait...
Non.
D'accord ?
Techniquement parlant, perquisitionné, non.
Non, d'accord.
Ils sont venus, on a été entendus, tous les enfants ont été entendus, certains conjoints, même des enfants ou amis. Voilà, on sait, on entend et on a bien compris qu'effectivement, à ce stade-là de l'enquête, on fait partie effectivement des.
C'est normal, hein, ça n'a rien.
Entre guillemets, des suspects ou des personnes. Voilà.
Et même si c'est normal, comment vous vivez tout ça ?
Très mal.
C'est tellement dur.
Très, très mal. Et plus les jours avancent et plus c'est difficile. C'est difficile de trouver. C'est difficile de trouver une motivation pour se lever le matin. C'est difficile de trouver des raisons de vivre, nous. Mais pour les enfants aussi, pour mes belles-filles, mes gendres, c'est très difficile de reprendre le travail ou simplement d'avoir une activité de vie normale et de se dire, mais je suis là, limite, je souris ou je ris, et Erwan, il rit pas. Et ça, c'est insupportable. C'est d'une violence et c'est d'une... C'est, quand je disais sur la page que c'est une douleur physique, c'est vrai. La douleur, on la ressent physiquement. Le manque, l'absence, c'est horrible. Hier soir, j'ai eu un moment, ma fille a descendu l'escalier, je me suis tournée, j'ai vu Erwan. Ça m'a... C'est effroyable, il n'y a pas... Enfin, tant qu'on ne traverse pas ce genre de choses, on n'imagine même pas ce que ça peut vous faire endurer.
Cet appel que vous lancez, il faut le reformuler encore une fois, comme le faisait votre avocat, vous demandez à tout le monde, tous ceux qui sont là, responsables ou non de quoi que ce soit, anonymement ou pas, mais de parler.
Tout à fait. On ne veut même pas savoir qui, quoi. On veut juste une information qui nous permette de le retrouver. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui a bien pu se passer, peu importe. Vous pouvez tout à fait donner une information... De manière anonyme, sans être impacté. Voilà, on n'est pas dans la notion de représailles ou de. On n'en est pas là. Nous, on veut juste retrouver Erwan. On veut juste retrouver notre fils, notre frère, notre. Voilà, c'est tout ce qu'on demande.
Mais tout est envisagé aujourd'hui. Une mauvaise rencontre, malheureusement, un accident. Tout est possible.
Tout est envisagé. Il y a des points d'eau qui ne sont pas très loin, donc tout est envisagé. Donc le travail des enquêteurs, encore une fois, je le redis, qui est de qualité, qui est diligent et qui est efficace, est fait. Mais toutes les hypothèses sont sur la table. Alors, a été évoquée la disparition volontaire. C'est une hypothèse qui a été posée sur la table. Mais c'est vrai que on a tendance à l'exclure, bien évidemment. Mais lorsque je dis on, c'est pas seulement nous. Ça veut dire qu'on n'a aucun élément tangible qui permette de penser qu'il aurait, j'ai envie de dire, fugué volontairement. Mais oui, nécessairement, toutes les hypothèses sont sur la table. Et en fait, par définition, il est très difficile d'exclure définitivement l'une de ces hypothèses. Mais c'est vrai qu'on a envie, avec la famille d'Erwan qui se bat très, très courageusement, on a envie de croire à une issue positive. Encore une fois, c'est pour ça que ce rassemblement est encore un rassemblement positif, parce qu'on veut croire à une issue positive.
Et vous avez déposé plainte contre la boîte de nuit dans laquelle il a passé la soirée.
Tout à fait, il y a une plainte qui a été déposée parce qu'on estime qu'il y a des zones d'incertitude. Donc là aussi, c'est, si vous voulez, le champ de l'enquête qui peut s'étendre jusque-là. Peut-être est-il, et sans doute d'ailleurs, est-il trop tôt pour affirmer quoi que ce soit de manière définitive, mais à tout le moins, il y a des choses à éclaircir, potentiellement des manquements. Ça, si vous voulez, c'est pas à moi de le dire aujourd'hui sur votre plateau. Il y a eu des manquements. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des questions qui se posent et que toutes les questions doivent se poser. Il ne doit pas y avoir de questions taboues. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder aussi dans la direction de cet établissement pour voir si tout a été fait, s'il y a des zones d'ombre et est-ce que, j'ai envie de dire, la lumière ou en tout cas, est-ce que la vérité pourrait aussi passer par des investigations peut-être plus poussées de ce point de vue-là.
Karine, dans l'hypothèse où Erwan serait parti, aurait fugué pour X raisons, qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui ?
Rentre, Lulu. Rentre. On s'en fiche de... Voilà, on trouvera s'il y a des raisons à un départ volontaire, parce qu'on part pas comme ça, on quitte pas sa famille comme ça, ses amis. S'il y a des vraies raisons, ben, s'il faut qu'on travaille dessus, on travaillera dessus ensemble. Mais rentre.
Merci infiniment d'avoir eu le courage de venir ici. On vous souhaite bon courage
merci
pour la suite.
Merci
à vous, à toute votre famille. Merci beaucoup, maître, merci d'être venu. Merci à Boris Karlamov aussi, qui travaille sur ce dossier depuis le début pour BFM TV, avec qui on suit le rassemblement aujourd'hui et évidemment l'enquête. Et on espère le meilleur pour vous. Merci beaucoup
d'être
sur le plateau d'Affaires Suivantes.